Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut à tous, bah on est bien dans Vacarme en Réunion, encore une fois. Cette semaine, on va se contenter de rappeler rapidement notre conseil du jour, qui sera celui de se méfier des policiers, puisque encore cette semaine a frappé un faux policier, et du coup le bien public rappelle encore une nouvelle fois qu'il faut vraiment pas se laisser faire par les policiers qui se montrent à nous, et qu'il faut vraiment être attentif à vérifier leur identification avec leur carte professionnelle et vérifier leur matricule, le matricule qui doit également aussi être lisible sur le brassard des flics en civil, du coup des bacs ou des gens de la DCRI. Et du coup, à cause d'encore un cambriolage cette semaine fait par un faux policier, on se joint au bien public pour rappeler ça. Méfiez-vous des policiers, surtout des faux. Et ce sera notre seul conseil d'actualité pour cette semaine, parce que on va vous passer une émission qu'on avait enregistrée il y a bientôt un an, puisqu'on avait fait ça en mars 2013. Ça s'appelle Le Morvan se lève. C'est une émission qu'on avait enregistrée dans le Morvan, où on était allé à la rencontre de gens qui luttent contre un projet de Syrie. Donc une grosse scierie incinérateur qui devait se construire à l'époque sur une des forêts du Morvan. Et donc des gens qui étaient allés occuper la forêt pour empêcher la construction de cette scierie. Et du coup, cette occupation, elle avait été lancée en février 2013. Et là, l'émission date de mars. Et elle retrace un petit peu, du coup, les débuts de cette lutte, comment ça a démarré, etc., quoi. Du coup, les infos qu'on trouve dedans, elles datent un peu, parce que aujourd'hui, ça a bien avancé. Ils ont pas mal de recours juridiques qui ont été menés à terme. Et l'association qui défend cette forêt, qui s'appelle Adrets Morvan, entre autres, parce qu'il y a plein de gens aussi qui font partie de la ZAD qui s'est montée là-bas dans le bois. L'association Adrets Morvan a gagné un de ses procès en justice qu'elle menait contre Hertia, qui est la société qui veut implanter cette scierie. Et donc, Adrets a eu raison sur la forme pour ce qui est de ce projet. Et du coup, le projet est toujours en suspension en attendant de gagner également le procès sur la forme. Pardon, le procès sur le fond, puisqu'en général, quand un procès est gagné sur la forme, il l'est aussi sur le fond. Du coup, on peut dire que ce projet est aujourd'hui complètement enterré dans la tête des Morvandiaux et qui veille simplement à ce qu'il n'y ait pas un nouveau centre commercial ou une autre connerie qui vienne leur dévaster leur forêt. Mais du coup, là, c'est plutôt une lutte victorieuse jusqu'à présent, quoi. Donc là, c'est une émission qu'on a raccourcie pour pouvoir rentrer dans notre heure d'audience. Vous pouvez la réécouter en intégralité en nous écrivant. On pourra vous transmettre l'intégralité de l'émission. Vous pouvez nous écrire à vnr at riseup, donc R-I-S-E-U-P. Net. Et profitez-en aussi pour nous écrire quand vous voyez des choses d'actualité dans la ville, si vous avez des commentaires à faire sur nos émissions. On est toujours un peu friands d'avoir des retours et de pouvoir transmettre d'autres informations à la radio que celles du bien public. Voilà, du coup, vous allez écouter maintenant cette émission qui s'appelle Le Morvan se lève, et on se retrouve dans 15 jours, et la semaine prochaine, et ben, vous aurez Terrain Vague. Au revoir. Thank you.
Vague des expulsions sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes et l'imprévisible et audacieuse résistance organisée qui l'arrêta, quelque chose a changé. Des possibilités nouvelles sont apparues. Un imaginaire s'est déployé. L'horizon de nos luttes en paraît durablement affecté. Beaucoup d'entre nous étaient déjà aux aguets des divers points de résistance et de conflictualité. Mais la période a redoublé notre attention vis-à-vis de ceux qui ont un rapport direct avec le lieu où il se déroule, au territoire. Nous sommes tout autant attentifs à la manière dont les luttes, trop grossièrement affublées de l'adjectif « local », résonnent largement dans la perspective d'un décrochage avec l'ordre régnant. C'est ce que nous cherchons. Nous en avons peut-être trouvé une esquisse dans l'opposition au projet de scierie incinérateur de Sardy-les-Épiries. Le combat y est essentiellement conduit par des habitants des alentours, quoiqu'une circulation importante s'y soit déjà instaurée. Ce qui a achevé de retenir notre attention, c'est la densité en germe des liens qui s'y établissent. Il paraît évident que ce qui peut s'y élaborer n'a pas seulement à voir avec la défense de la virginité d'une forêt. Ce qui s'y joue, c'est aussi une réappropriation de la vie en césure avec les impératifs et les méfaits de la gouvernementalité actuelle. La lutte y affleure dans la trame d'une vie ancré dans ces lieux. La Nièvre est un département qui est en tête de la liste des secteurs sous-industrialisés français. Les directives économiques du gouvernement indiquent que chaque occasion de pallier ce retard doit être saisie et poussée au maximum, faisant fi par là de la singularité de l'endroit, de ses potentialités réelles. Tant mieux, car cette zone au contour flou pourrait bien devenir de plus en plus opaque au pouvoir. Opaque, le Morvan l'a longtemps été, longtemps maudit, parfois asservi et utilisé, comme dépotoir pour orphelins ou comme réserve de main-d'œuvre destinée à entretenir le confort bourgeois. Espérons que cette opacité subsiste et entame une œuvre de contamination. Si nous employons le nom Morvan, alors que la lutte ne se déroule même pas dans les limites officielles du parc du Morvan, c'est bien que ce dit Morvan concentre une énergie singulière. Tenons-nous à l'écart de toute folklorisation. Les habitants qui mènent la lutte sont loin d'être tous originaires du coin. Ils sont porteurs d'une mémoire multiple, où l'on entend jusqu'aux échos de la fureur des barricades du quartier latin en mai 68. Pourtant, les gens que nous avons rencontrés parlent eux aussi du Morvan. Il semble que le pays imprime sa marque sur les existences qui s'en approchent. L'expérience de Notre-Dame-des-Landes a redoublé notre attention envers le bruissement continu des résistances locales, qui articulent presque immédiatement la lutte avec l'existence, qui en font des luttes que nous voudrions toujours moins isolées les unes des autres. La restitution que nous tentons de certaines des voix écoutées sur place se veut être une contribution à ce bruissement conspiratif. Le Morvan a mauvaise réputation.
Comme beaucoup de gens estimables.
C'est qu'il ne se laisse pas envahir.
C'est qu'il défend ses biens les plus précieux.
Sa beauté un peu sauvage.
Ses forêts immenses.
Ses lacs.
Sa population se défend elle-même.
Elle ne se donne pas à n'importe qui.
On a souvent pris le Morvan pour le dépotoir de la France.
Où les enfants illégitimes trouvaient une famille.
Où l'assistance publique cachait ses infirmes moteurs.
Et ses orphelins.
Il y a du vrai.
Comme il est difficile d'accès.
Le Morvan a des routes sinueuses.
Parfois embrouillées.
Les esprits aussi.
On s'y perd facilement.
Son relief tourmenté.
Ses vallées encaissées.
Ses villages sont accrochés à des collines âpres.
Ainsi se façonne l'idée que le Morvan n'est pas accueillant.
On s'y backnote pas par plaisir.
Les conquérants l'ont évité.
Les voies romaines le contournent.
Comme l'ont contourné le TGV et l'autoroute.
Pendant la dernière guerre,
ces maquis ont donné du fil à retordre à l'occupant allemand.
J'aime le Morvan.
J'aime l'hiver qui le rend dangereux par son verglas.
J'aime sa solitude,
sa force,
sa volonté et son mérite.
Ce n'est pas du Morvan qui croit l'être.
Bah, le problème, c'est qu'on n'est pas très nombreux déjà en termes de population. On est, c'est hyper restreint. Donc il y a rien de la densité. Alors, le parc du Morvan, c'est
10 habitants au kilomètre carré, le parc du Morvan.
C'est moins que la Corrèze, c'est-à-dire moins que le département le moins peuplé de France. Si tu prends que le Morvan, c'est le
pays d'hiver est Morvan.
C'est la Lozère, le moins peuplé.
Donc, c'est vraiment pire que pire.
Et c'est un peu pour ça qu'on est venu là, ou qu'on y reste.
C'est ça. Eux, ils arrivent, ils viennent expliquer à des ploucs. Il faut expliquer aux ploucs. Et moi, j'ai entendu dire à la radio, c'est fini la ruralité d'avant, le paysan avec sa biote sur le dos et machin.
Connard.
Et voilà, mais les gens qui ont choisi de rester vivre ici, ou les gens qui sont venus y vivre, ils sont venus aussi pour ça. Pour le paysan, ils n'ont pas honte de ce qu'ils sont, quoi. En fait, ils n'ont pas de vision ici. Ils ont soit des systèmes industriels datant du 19e siècle. Ils ne veulent pas s'attaquer au vrai problème de la ruralité. Mais c'est celui qui est général en France. C'est pas seulement ici. Le vrai problème de la ruralité, c'est comment on densifie la démographie et comment on valorise la place des gens qui exploitent la forêt et les sols. Après, il y a des gens qui veulent venir habiter aussi sans forcément être en lien avec l'agriculture. Aujourd'hui, par le télétravail, ce genre de choses, ils viennent ici pour un certain cadre. Si ce cadre-là, ils l'ont plus, ils s'en iront. Ils sont pas complètement cons, quoi. Puis même nous, la question elle est de savoir, qu'est-ce qu'on veut. En fait, la question fondamentale, la première à se poser, c'est celle-là, quoi. Et donc, c'est vrai que...
Est-ce qu'on va tendre la joue encore longtemps?
Est-ce qu'on veut continuer dans ce système où, en fait, on y permet dans les trucs qui sont forcément mortifères. Les retraités, en fait, ici, on leur reproche d'être là, ici. Donc, faut savoir, c'est 40% de la population. Que si les retraités néo-ruraux ils venaient pas ici,
c'est mort.
Mais ce serait le désert.
Vous traversez le Morvan, vous verrez que c'est une des rares régions où toutes les maisons dans les villages sont pas en ruine. C'est habité, c'est vivant, les maisons sont ouvertes, quoi. Même s'il y a des volets fermés parce que c'est des gens en retraite qui vont l'hiver à la ville étrangers qui sont là l'été, mais ils sont là très souvent quand même et puis ils participent à la vie du village.
Voilà.
C'est pas une zone morte, quoi.
Comme on est à 2 heures de Paris. Il y a des gens.
Parce qu'il n'y a pas de service public, ça c'est clair, tout le monde va le dire. Oui. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'hôpitaux.
Il
y a des gens. Ils sont là, les gens, quand même.
Il y a eu un démontage. Il n'y a pas de transport. Cette année, le Conseil général vient de décider de baisser le remboursement des parents sur les transports scolaires. Il y a eu aussi des choix de fait. Après, il y a eu toute une politique menée au niveau du service public et de l'hôpital.
La maternité,
qui a été décidée.
C'est quoi cette histoire de maternité? Parce que ça revient tout
maternité,
le temps.
Maternité, c'est parce qu'en fait,
faut expliquer toutes celles qu'ils ont fermées déjà.
Au jour d'aujourd'hui, si demain t'accouches.
Les trois qui sont nés là-haut, les deux maternités sont fermées.
Voilà, la plus proche, elle est à 70 km.
C'est une heure maintenant.
Elle est à 70 km.
Ce qui est intéressant, sur cette histoire de maternité, c'est que nos élus actuels s'insurgeaient contre cette fermeture de services publics. Écharpe tricolore en tête, quoi.
Photo sur le perron de la maternité
avec notre Christian Paul devant la photo et qui va signer la fermeture de la maternité de Clamecy au conseil régional de sa main.
Et ça, c'est dans un rayon de jusqu'à 60 km autour de Corbigny. Là. Et donc ça fait 4 maternités en disons 15 ans.
Ça, effectivement, c'est dû à la baisse démographique, monsieur. Les fermetures de maternité, les pertes de lits en maternité et le traitement industriel de l'accouchement, c'est une politique nationale. Oui. Même en ville, les dames ne restent pas plus de 3 jours aujourd'hui.
Ouais, ouais, enfin.
Ça veut dire que si on arrive dans un pays désert, enfin moi je suis pas d'ici par exemple, c'est pour moi ça, ici, vivre ici, pour moi c'est déjà un outil de résistance, quoi. Me faire à manger, créer une sorte de tribu d'autosuffisance entre guillemets, de soutien et de réflexion autour de l'éducation, etc. Quoi. C'est-à-dire que ce territoire-là, il est tellement enclavé que enfin, j'ai l'impression. Un peu pareil gros ce que je dis, mais j'assume, tu vois, c'est que ils le savent. De pardon, ils parlent de trajectoire oubliée, ils parlent du Morvan, de l'Ariège et la troisième, je sais plus où c'est, quoi. Et c'est là où ils sont en train de faire. Ils essayent, c'est les derniers territoires qu'ils veulent annexer, quoi, pour industrialiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on va industrialiser ici ? Le Douglas. Le Douglas et le Charolais.
Voilà.
Voilà.
C'est
ils veulent industrialiser les derniers monts sauvages qui existent.
Exagère
du coup les
c'est pas dans le Morvan, c'est assez mondial cette histoire.
C'est vrai que pour l'instant ça a été traité dans le microcosme, mais cette transversale de vraiment, non, je reviens sur la transversale des scieries qui veulent installer, c'est un enjeu très très grave. Ouais. Je veux dire, ça va finir ce que l'industrialisation de l'agriculture a commencé.
Ouais.
On va avoir une bande déserte au milieu de la France. Ouais.
À mon avis, les forêts, comme on les
connaît, on aura des côtes urbanisées. Voilà.
Des
méga agglomérations.
Et on aura le vide entre le sud et le nord.
Mais ça va être terrible. Ce sera le désert ici. Ce sera le désert. Il y a, malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent du bois. Et en 10 ans, déjà, ils ont perdu. Il y a 1500 personnes en moins qui vivent du bois en 10 ans sur la Bourgogne, avec des volumes de sciage jamais atteints. Par année, des trucs de fou quand même. Hein. Et ben si on les industrialise, ils disparaîtront aussi, tout simplement. Mais ça, c'est les aberrations des systèmes de subvention. Hein. C'est-à-dire que on pense faire une bonne idée, avoir une vraie bonne idée par l'argent, mais si on insufflait quelque chose. Or, au lieu de l'insuffler à petit niveau et que ça profite vraiment aux gens à petit niveau. On lance des grandes campagnes de subventions et c'est comme ça qu'on a flingué une première fois le photovoltaïque. Là, on recommence à faire la même chose.
Un coup de fil par jour.
Hein, c'est comme ça qu'on est en train de flinguer l'éolien en filant ça à des industriels qui n'ont qu'une envie, c'est de se faire de la thune. Ils n'en ont rien à foutre du reste. Hein, et c'est comme ça qu'on va faire avec la biomasse. Voilà, c'est construire des gros trucs. Les mecs, ils vont se gaver parce que c'est eux qui vont consommer l'énergie qu'ils produisent et on va les payer pour consommer l'énergie qu'ils produisent. Et donc ça, c'est pour toutes ces raisons-là. Déjà, au niveau de la filière bois, il y a un vrai enjeu. Et voilà. Donc, cadrer sur le territoire, c'est aussi pour survivre à Hercia et regarder tout ce qui se passe, quoi. Et proposer d'autres choses, et voilà.
Toi, tu bosses dans le bois, et du coup, il y a des...
Je bosse pas dans le bois, je suis paysagiste, mais...
Mais il y en a pas mal, des petits exploitants comme toi, ouais. Dans la région, ça va toucher, non?
Ben forcément, moi, mon activité, je suis paysagiste, donc je fais de l'entretien, un peu de création. Je serai à côté d'une grande ville. Le marché de l'immobilier est tel que je ferai de la création tout l'hiver, je ne me poserai pas de questions. En Morvan, l'hiver, alors je fais un peu d'élagage, mais c'est mon activité principale de l'hiver, c'est du bûcheronnage. Donc moi, mon souci, déjà, là, j'ai encore deux forêts à exploiter. Quand je dis à exploiter, deux forêts, je laisse forcément ce qu'on appelle des baliveaux, des petits arbres, qui dans 20 ans vont donner des arbres à exploiter, et des grands arbres qui vont donner des fruits secs, des graines et tout ça, qui vont pouvoir régénérer la forêt, normalement. Donc là, j'ai encore 2 ans, voire 3 ans d'exploitation hivernale. Après, au rythme où ça va aussi, la déforestation de feuillus, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire de l'hiver si vraiment il n'y a plus de bois. Les petits propriétaires, maintenant, ils sont visités par des grosses scieries comme celle qui s'installe là dans le coin.
Qui leur mettent
donc
des
je fais
gros
pas
billets,
le poids, moi. À 5 euros du ster sur pied, je travaille sans tracteur, sans machine pour fendre, tranquillement. Ça me fait vivre, hein. J'ai pas besoin de beaucoup, mais ça me fait vivre.
Puis vis-à-vis du Morvan, les industriels, ils ont
un gros souci, c'est que les bois, c'est que des petites parcelles. Et ça, ça les emmerde énormément pour faire tout rassembler, et puis racheter des gros trucs et installer des grosses sapinières.
Ça, c'est un problème qui existe partout sur la France.
Mais ils sont en train de régler le problème.
Ouais. Voilà. Et à l'heure actuelle, ils ont lancé les assises de la forêt. Et c'est là où je disais tout à l'heure, les associations au niveau de la forêt feraient bien de se bouger. Non pas qu'elles le font pas, mais de se manifester. Parce que ce qu'ils décident dans les assises de la forêt, là, c'est un pour éliminer les petits propriétaires.
Un remembrement,
c'est ça. C'est-à-dire, comme dans le qu'on a fait dans le domaine agricole, ouais, c'est-à-dire qu'on va redéfinir les parcelles. Quoi. Mmh. Et pour avec but hein, d'avoir des forêts domaniales qui, elles, seront protégées. Et des forêts des grosses propriétés privées qui, elles, seront surexploitées. Quoi. Un espèce de pourcentage de forêts domaniales sanctuarisées, quoi. Et un endroit où on pourra faire n'importe quoi. Voilà. Mais ça existe, hein, par exemple, aux États-Unis, dans certains États, l'État possède la moitié de la forêt. Et l'autre moitié, elle est exploitée par des gros exploitants forestiers. Mais ici, en France, on possède, l'État, il possède, enfin, toutes les collectivités, elles possèdent 20% de la forêt. S'ils s'amusent à faire ça, ça va être une catastrophe. Parce que bon, on n'est plus du tout là dans leur vision de la forêt, on est plus, c'est pas de la forêt qu'ils voient, c'est des champs.
Mais champs de
fou. La forêt, ça se régénère naturellement, la forêt. Ça n'a pas besoin de nous. Ça a besoin de nous pour l'entretenir. Voilà, pour en ressortir ce qu'on veut, mais ça n'a pas besoin de nous pour faire pousser les arbres. Ça n'a jamais eu besoin de nous.
À côté de chez moi, il y a 10 hectares. Là, en ce moment, il y a des Italiens. Il y a un groupe italien qui est arrivé. Il y a un mec qui est là en permanence toute l'année et qui fait les cadastres. Et qui cherche les propriétaires de feuillus. Hein. Essentiellement de feuillus. Mm. Parce qu'en Italie, ils n'ont pas de bois de chauffage. J'imagine peut-être au pied des Dolomites, mais après, sinon, c'est un peu sec. Quoi. Ils ont des petits arbres. Et le bois du Morvan, c'est un super bois de chauffage. Donc, ils sont pas fous, ils sont venus ici. Donc, ils sont installés. Il y a carrément un conducteur d'engin. Il y a deux bûcherons et un mec qui fait les cadastres et qui cherche les propriétaires. Ils ont fait le chantier, ils ont rasé 10 hectares comme ça. Donc ils ont sorti le bois d'œuvre, ils ont sorti le bois de chauffage qu'ils estimaient suffisant sur les têtes d'œuvre. Et tout le reste, ils ont mis en andin. Et après, entre chaque andin, ils ont planté des sapins. On connaît les propriétaires de cette forêt de 10 hectares. On est allé lui demander avec deux amis, dont un paysagiste aussi, si on pouvait aller tirer un petit peu de bois dans les andins pour faire du bois de chauffage. Sur une surface de 3000 m², on a fait 35 stères. De bois vraiment exploitable, hein. C'est pas du petit bois, c'est pas de la charbonnette. Hein. On a refendu des morceaux de bois et tout. Et là, ils gâchent. Ils sont arrivés avec une pelleteuse, ils ont poussé tous les déchets dont ils n'avaient pas besoin. Mais des morceaux d'arbres de 30 cm.
Hein. C'est comme le récup au supermarché.
Ils ont tout poussé en andin et entre, ils ont mis les sapins.
Non, non, mais si tu
faut le voir, le paysage. Si, c'est impressionnant quand vous arrivez dans une forêt comme ça. C'est un champ de bataille. C'était ni plus ni moins que la guerre à la forêt. Ils sont avec des grosses chenilles, des gros débardeurs. C'est la guerre à la forêt.
La loi, qu'elle soit religieuse, politique, psychologique, biologique, ben, la forêt, elle la déstabilise. La loi. Les forêts, elles sont au-delà de la loi. Mieux, en fait, les forêts, elles sont en dehors de la loi. Les principes d'identité et de non-contradiction là, qui fondent les principes de l'homme civil, et ben, tout ça, ça disparaît dans la forêt. Dans la forêt, tu vois, le profane qui se transforme en sacré. Mais hors la loi, c'est bien le défenseur d'une justice supérieure. Et en général, on les associe à la bestialité, à la déchéance, au nomadisme, à la perdition. Du point de vue théologique, les boîtes, ça représente l'anarchie de la matière. C'est l'exact contraire d'un monde qui est créé à l'image de Dieu. La nuit, tu vois, aux abords des villes qui sont assiégées par la nature, les sorcières, elles là, il y a des démons, les démons antiques, les fées, les esprits de la nature qui rôdent ensemble entre les arbres. Et dans les bois, on courait toujours le risque de rencontrer. Détruire les bois, ça signifiait pas seulement réduire en cendres des siècles d'accroissement naturel, mais ça voulait surtout dire anéantir les fondements de la mémoire culturelle des habitants des bois. Et en effet, tu vois, toutes les hiérarchies ecclésiastiques là, eh ben, elles s'appliquaient surtout à déboiser et à éradiquer les arbres.
Mais on était tous, on va se mettre dans notre coin et puis nous on va faire comme on veut quoi.
Bah ouais, ouais.
C'est trop de travail, tu sais.
Mais non, c'est pas que c'est trop de travail. Ah, en fait, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce que sinon ils viennent te casser les couilles.
Ah, oui. Tu peux pas.
Ouais. Tu peux pas les laisser tranquilles en fait.
Quand j'ai installé mon exploitation d'escargots ici, mais en rigolant, je me disais, mais je suis peinard ici. Ils vont jamais venir me coller une autoroute.
Bah, ouais.
Il y en a une de chaque côté du Morvan. Je suis tranquille.
Ouais, bah non, ils sont venus installer un truc que normalement tu dois installer à côté de l'autoroute. Ouais. Ça ne tient pas l'autoroute.
J'espère pas, j'espère qu'elle viendra.
Mais en fait, la prise de conscience, c'est que tu peux pas rester dans ton coin à te dire je vais vivre comme je veux, je vais essayer de drainer ça autour de moi avec mes potes et tout.
Gentiment.
Et eux, je les emmerde. Parce qu'en fait, si tu fonctionnes comme ça, en fait, tu leur fous la paix. Mmh. Et si tu leur fous la paix, bah, ils peuvent pas s'empêcher de faire des conneries quoi.
Là ils sont vraiment très dangereux.
C'est ça. Non ici si, non mais non, vous rendez pas compte là.
Ils sont vraiment très dangereux.
Non, non,
c'est dans les rues, les écoles et les champs. Ce vieux monde agricole, paysan, que cette nouvelle un peu folle se répand. On a trouvé du pétrole dans le Morvan.
On a trouvé du pétrole dans le Morvan.
Alors là, je dirais qu'on est dans le bois du Troncé, appelé anciennement le bois de la Tour. Nous, on y a repéré une feuille tout à fait particulière. On soupçonne que pour que les feuilles aient cette couleur-là, c'est sûrement qu'il y a eu des feux il y a 1 million d'années. Et que du coup, ça veut sûrement dire qu'il y avait des gens qui baladaient par là.
C'est le vieux, ils appellent ça le bois de la Tour apparemment ici.
Le bois de la Tour et le près de la justice.
Ouais. Il y a encore un troisième nom pour la forêt.
En fait, c'est une zone qu'ils ont délimitée. C'est un certain rayon, un certain périmètre et ils vont... apparemment, d'après ce que j'ai compris, couper tout ce qui est à l'intérieur de cette zone, survoler en hélico, prendre des photos, voir s'il y a des fouilles archéologiques à faire, et puis avant de tout raser.
Je peux vous expliquer ce que t'as fait. Là, je suis en train d'effacer un marquage sur un arbre, pour pas qu'ils coupent les arbres, pour pas qu'ils retrouvent les zones où ils veulent abattre des arbres.
Permis d'aménager, numéro de permis d'aménager, on s'en fout, en date du 21 mars 2012. Le bénéficiaire, c'est Nièvre Aménagement, 13 rue Ferdinand Gambon à Nevers. Création d'un lotissement industriel de 13 lots, dont 3 sont à bâtir, dans le bois de Troncé. La superficie du terrain, c'est 496 027 m². La surface hors œuvre nette créée, 201 070 m². Le dossier est consultable à la mairie de Sarrat.
Projet initial, je veux dire, en 2006, c'est une série zéro déchet. Une série zéro déchet qui va valoriser ses déchets, qui va... C'est comme ça que ça nous a été présenté, quoi. Le summum de,
du truc écolo, quoi.
La première fois qu'ils vont faire signer la pétition, on a fait comme tout le monde, on a dit mais c'est qui ce retraité qui est contre tout?
C'est vrai, on parle de Michel Leblanc là, parce que c'est lui quand même qui a été le premier.
Qui a été le premier à regarder le dossier et machin, et est venu nous faire signer le truc, et on l'a regardé, Siri Zéro Déchet, pourquoi il est contre. Et on a dit, bon bah on fait chacun moite-moite, il y en a un qui signe, l'autre qui signe pas, et
dans
puis on va se renseigner.
Ah ouais, dans le doute.
Dans le doute, on connaissait pas, c'est monsieur, tu vois. On connaissait pas, donc.
Alors bon. Qui c'est qui a signé?
C'est moi. C'est moi qui ai signé. Toujours comme ça. J'ai du mal à pas signer les trucs comme ça.
Après, il a été au conseil municipal.
Et après, j'étais au... Enfin, ouais, voilà, c'est toute la découverte. Nous, comme on est en train de dossier, je suis allé dans le conseil municipal en 19 décembre 2011. Et là, j'ai vu que le seul élu, Jean-François, le seul élu qui avait lu le dossier...
Il s'est abstenu.
Il a refusé de voter le dossier, quoi. Et ce jour-là, je me suis aperçu que les gens comme Michel, comme Antonio, comme Claude, ben, ils avaient des questions...
Et les élus
étaient incapables de répondre.
Pas de réponse.
Voilà. Puis après, bah, j'ai rencontré des gens aussi hein, qui m'ont dit on a quelqu'un qui est enseignant-chercheur et qui est aussi directeur de recherche au CNRS qui s'est penché sur l'arrêté ICPE. Et voilà, pour lui, il est revenu, il m'a dit non, mais c'est un incinérateur. Il n'y a pas à tergiverser. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un incinérateur, en ce sens que, contrairement au projet initial où on devait brûler que de la biomasse, c'est-à-dire les résidus de la scierie, et de la plaquette forestière. Le projet ici, il intègre son principal combustible, enfin le combustible majoritaire, ce sera des bois de déchets, des bois de déchetterie, c'est-à-dire des bois peints, vernis, collés. Voilà. Et ils sont autorisés à brûler cette catégorie de bois jusqu'à 75%. On rentre dans un incinérateur, hein. C'est, d'ailleurs ça répond à la nomenclature officielle de tout ce qui est les incinérateurs de déchets ménagers et ou d'ordures ménagères.
Voilà. À plus.
Donc, sauf que là, comme il y a un système de valorisation énergétique, ouais, effectivement, en fait, il y a une formule de calcul qui existe qui fait que quand tu as une valorisation énergétique des saloperies que tu brûles, tu as le droit de polluer plus. Voilà, c'est comme
magique.
Ça. C'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé à parler d'incinérateur,
On nous a traité de menteur.
Jusqu'au mois mois d'août, on va dire. Même au début d'adresse, c'est des menteurs, ils disaient aux gens c'est n'importe quoi. Et puis après, ils ont sorti un truc, c'est vrai ce qu'ils disent, mais c'est pas grave. Voilà, c'est vrai ce qu'ils disent, mais c'est pas grave. C'est quoi les enjeux? C'est 154 millions d'euros d'investissement, c'est 120 emplois et 250 emplois indirects. Alors, moi je comprenais pas en fait à l'époque. Mais en fait, j'ai récupéré l'étude KPMG et là j'ai compris. Là, j'ai compris. C'est-à-dire qu'on considère que les mecs qui sont actuellement sur les déchetteries en train de trier le bois, eh ben, ils sont incorporés aux emplois indirects qui ont été comptés là. Il y a des emplois déjà existants sont incorporés comme créés. Mais ça, c'est lunaire quand même. Je suis désolé, moi. Enfin, j'oserais pas présenter un dossier comme ça. À beau aller les voir avec les chiffres, avec les trucs, leur montrer, alors quand vous les avez en face de vous, ils regardent leur pompe. Mais en fait, ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est un projet qui est nocif, c'est un projet qui va coûter, s'il se fait, une fortune à la collectivité. Hein, ce sera une subvention qui sera à hauteur de 110 millions d'euros. Mais si c'est juste un problème démographique, vous savez ce qu'on fait avec 110 millions d'euros ici? On fait venir 200 personnes sur le territoire et on les paye à rien foutre pendant 40 ans. Ah ouais, charge comprise. Si c'est vraiment un des problèmes démographiques, moi, je suis sûr qu'on va trouver du monde. Hein. Non, mais c'est vrai.
Ah, oh, mais on est partant.
C'est clair. C'est sûr.
Non, mais voilà. Là, ils pourront dire il y a du monde de nouveau sur la zone. On peut peut-être penser à rouvrir des classes. Peut-être là, ils pourront le dire à ce moment-là. Ouais.
Surtout qu'ils font pas rien parce que tout en merde.
Ils font pas rien parce qu'à part moi, les gens qui sont vraiment malades, il y a personne qui fait rien.
C'est pas possible.
Plus de truies, plus de chevreuils et plus de champs. S'en fout de ses bémols, les marchands pompent paix jusqu'à total. Épuisement du thym, gisement du pétrole dans le Morvan.
Gisement du pétrole dans le Morvan.
Entre les pics ça s'échange et les prix qui dégringolent se répandent plein d'une énergie nouvelle. Ce slogan, on a trouvé du soleil dans le Morvan.
On a trouvé du soleil dans le Morvan.
Sauf que les opposants se sont fait couper l'herbe sous le pied par un arrêté préfectoral. Il a été pris ce lundi matin et autorise l'aménageur du site à réaliser une zone humide pour la protection de la faune en dédommagement d'une zone déjà existante mais qui devrait disparaître avec la construction d'une scierie biomasse sur la forêt.
On vous demande de pas aller, vous respectez aussi.
Voilà, c'est pas la même de me frapper.
Oui, oui, bah,
je vais pas frapper. Je vais pas frapper.
Là aujourd'hui, la situation elle est quoi? Elle est de toute façon. On va les traquer quoi. Parce que là, de toute façon, on n'a plus le choix. Je veux dire, on a gagné en justice, on a respecté toutes les règles, de toute façon, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, ils parlent des gens de Notre-Dame-des-Landes en disant que toutes les décisions de justice sont prises et que ces gens-là, ils ont qu'à partir. C'est une question de droit, qu'on est dans un état de droit. C'est quand même leur argument principal. Et eux, quand ils perdent, ils font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils reprennent des arrêtés illégaux et puis ils nous emmerdent.
Les associations de protection de l'environnement lancent dès ce soir un référé pour tout faire cesser. Elles ont aussi promis d'occuper le terrain jusqu'à la fin des travaux.
C'est pas grave, on va passer dans le bois.
Aujourd'hui, on a été un peu surpris et pourtant on est déjà assez nombreux. Mais qu'il ne se fasse pas d'illusions, quoi. C'est que le début. On sera de plus en plus nombreux et on sera là de plus en plus tôt et on sera de mieux en mieux organisés.
On va y retourner, hein. T'inquiète pas.
Je sais très bien que le fait d'être resté face à 70 poulets toute une journée dans un bois, pour la moitié des gens qui soutiennent le projet, ça va leur faire fermer leur gueule. Parce que les poulets, je pense qu'ils ont été... ici, tu ne déplaces pas les poulets. Voilà. Ici, même qu'ils soient de l'extrême droite à l'extrême gauche, ici, tu ne déplaces pas les poulets. Voilà. Et autant de poulets pour des mecs du coin, ça va pas. Qui défendent quelque chose et qui ont eu le tribunal pour eux, ça va pas.
Malgré tout, je pense qu'on a gagné en sympathie dans la population.
Voilà, le mec qui nous a filé le boudin, le machin, c'est que des gens qui soutiennent le projet Hertien.
Le boudin qu'on a mangé.
Voilà. Ils nous ont filé de la bouffe, ils nous ont filé à boire.
Ouais,
le boudin d'un midi, c'était un pro Hertien.
Pas mangé.
Moi, je l'ai mangé.
Il était très bon.
Trois fois,
mais voilà, ils ont mis un pied dans le bois, je crois que ça nous a fait peur, et on a réagi. Et vous êtes là ce soir, quoi.
So, un Parisien, quand c'est fun, que se promène. Tu vois? Un peu ailleurs le chichil qu'on sortait sur le talus, de la route, pas loin de ses maillons. Alors, le Parisien descend de la voiture, dès qu'on a des jumelles dans le cou. Ma foi, avec mon chichili là, le toigere, quoi que c'est volaire. Où qu'elle voit cette route-là? Acadie ne sait pas. Mais qui c'est le village qu'on voit dans le fond? Acadie, il ne sait pas. Mais il dit, la rivière qui coule en bas là, comment qu'elle s'appelle? Acadie ne sait pas. Alors, mais vous ne savez rien, vous ne savez rien du tout. Non, qu'a dit une septétra, moi, qu'a dit moi, ne suis pas perdu.
Vous pouvez nous expliquer un peu où on est, là?
Apparemment, nous marchons quasiment plein nord. Et nous devrions rejoindre la ZAD.
Nous commençons par le petit parking du campement situé à l'orée du bois du Troncet. Nous commençons notre visite. Nous avons deux petites caravanes à côté. Ensuite, nous avons l'accueil avec les papiers pour faire R pour savoir quand et qui seront là. Nous sommes sur la petite route principale faite en paille. Sinon, ça serait trop boueux. Nous avons mis beaucoup de banderoles. Nous approchons de la cuisine. C'est une tente faite en toile et en fer. Nous avons de la fumée. Les femmes font la cuisine. Le matin, c'est là qu'on se retrouve. Toujours. Il y a souvent des petits regroupements, comme ici. Nous allons visiter le chantier. En premier, il y a les toilettes sèches, dont une hors service. Nous sommes en train de remonter une véranda. Ainsi, la maison en bois. Nous sommes à l'intérieur de la maison. Le plancher est fait en paille. Nous allons aller au dortoir. Nous avons une balançoire pour les enfants à droite. Nous approchons du dortoir. C'est une maison en paille, un toit en toile. Là, c'est chauffé au gaz. L'air y est respirable. Avant qu'elle était aménagée, c'était pas mal. C'était pas très bien. Maintenant, nous avons des nouveaux lits. Il y fait assez chaud la nuit. Nous, pour jouer, on avait fabriqué une maison de bois au-dessus d'un grand arbre. Ils avaient détruit notre toboggan en enlevant la botte de paille. Et je ne peux pas vous parler du reste. C'est secret, il ne faut pas que ça passe à la radio. Au revoir, à bientôt. J'ai terminé mon émission. On a terminé tout.
La ZAD s'est pas créée en un jour. La ZAD, c'est au bout d'un an et demi de combat. Après l'intervention des forces de police dans le bois pour programmer une mesure compensatoire, remplacer la zone humide de 6 hectares pour une petite zone humide de rien du tout, gnognotte. Et donc, le lendemain de ce fameux lundi 4 février où on n'a pas pu empêcher donc, la première coupe d'arbres, on s'est tous concertés, on s'est tous retrouvés là et on s'est dit, en clair, nous, on est dans la légalité, mais la préfète, elle, est passée au-dessus de la loi. La ZAD, c'est vraiment l'occupation de ce lieu pour le protéger. Donc, on n'occupe pas la forêt, on n'est pas dans l'illégalité. Donc, on occupe la lisière du bois, en quelque sorte, pour être là, pour essayer d'empêcher toute intervention, tant que les jugements ne seront pas terminés au tribunal administratif.
On soutient, on était des gens bien propres sur nous, on a tout fait comme il fallait. Puis là, du coup, c'est des chevelus.
Ça craint.
Non, et là, c'est autre chose. Je pense que ZAD, c'est pour dire qu'on est rentré en guerre aussi. Bah oui, tu vois. Effectivement, il y a un truc de ralliement, mais il y a aussi dire, bien faire comprendre aux gens ici, que maintenant, c'est la guerre.
Eh oui, bah oui,
voilà. C'est bon. On a tout fait comme il fallait, mais que maintenant, on lâchera pas l'affaire. On ira jusqu'au bout. Parce que ici, malgré tout, les gens, ils nous prenaient pour des charlots. Quoi.
Et dire que chaque fois que nous votions pour eux, nous faisions taire en nous ce cri, ni Dieu ni maître, dont ils rient aujourd'hui, puisqu'ils se sont fait Dieu, et qu'une fois de plus, nous nous sommes fait maître. Et puis c'est tout.
Ils sont, comme tu disais, ils sont 25 ans. On va dire le pseudo-altar mondialiste. On peut tous assumer leur mise en question du capitalisme, et d'un seul coup, ils ont peur, quoi. Leur mise en question d'idées d'horizontalité entre les gens...
C'est des gens de gauche, ici.
Ils ont peur, d'un seul coup, ils ont peur. T'es tout de suite un terroriste, en fait.
Mais non, mais c'est...
T'es tout de suite un gros rouge.
Dès que tu leur parles de leur petit pouvoir, en fait, c'est pas possible.
C'est un marginal. Tu vois, il n'y a pas encore ce truc, j'ai l'impression de...
Mais ça n'existe nulle part.
Faut savoir.
Tu peux parler chez toi, je veux dire.
Si, ça existe. Quand il y a des trucs qui sont nés, voilà... Quand il y a des résistances dans un territoire, qu'elle échoue ou pas, elle a un impact sur toi autour.
Ah oui,
les mecs, ils ont une trouille pas possible
d'une remise en question, du mais toute simple, basique, quoi. C'est bon, on le sait. De ce système.
Non, en fait, ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une lutte.
Non, ça a révélé plein de choses. Ouais. C'est vrai que tous autant qu'on était, quelque part.
On était tout seul.
On était dans notre truc, on n'a pas envie de vivre pareil et machin. Bon, chacun à notre manière. Hein. Voilà. Enfin, ceci dit, il y avait des gens là qui étaient tout à fait bien dans la normalité avant qu'on vienne les déranger. Hein. Je pense à certains de mes voisins. Bon, voilà, mais je pense qu'ils fréquentent des gens aujourd'hui qu'ils n'auraient jamais cru fréquenter un jour.
Mais c'est bien ce principe.
Mais c'est vachement bien. Ouais. C'est vachement riche. Ouais. Du coup, c'est vachement riche. Et
ça, c'est vachement riche, oui.
Alors que dans les villes triomphe une religion qui sert les classes dominantes et qui modèle ceux qui auront le privilège de gouverner, sous l'ombre maternelle des arbres millénaires, on continue d'adorer la grande déesse de la forêt. Durant tout le Moyen-Âge, d'immenses forêts recouvrent le continent dans l'indifférence des temps. Ici et là, de petites installations éparses survivent grâce à la chasse et à la récolte offerte par les bois. Pour le nouvel ordre social qui s'organise, les forêts sont précisément foris, au dehors. Les troupes de bannis, poussées dans la canaillerie par la guerre, par les impôts ou par la faim, devaient être nombreux. La société jette sur les routes et dans les bois ses franges les plus faibles. Le nombre des exclus augmente vertigineusement et ils s'ajoutent, et s'unissent jusqu'à se confondre, aux préexistants peuples de la forêt et des montagnes. Où aurait-il pu aller ? En fuyant les lois et la société des hommes civils, il se retrouve naturellement dans les bois. Là, vivaient les proscrits, les fous, les amants, les brigands, les fugitifs, les inadaptés, les ermites, les saints, les lépreux, les révolutionnaires, les hérétiques, les persécutés, les sorcières, les femmes perdues, les hommes sauvages. Et chaque groupe porte avec lui son propre langage ou dialecte secret, avec ses saints, sa cuisine, ses sortilèges et ses psalmodies, ses rêves.
Radio Campus 92.2.
Mmh.
Lie once more, will we?